3 novembre, cours de métaphysique, Père Philippe.
Troisième cours.
Une question, je réponds tout de suite. Vous dites que Lousia, je reprends, Lousia grec, traduit par substantia latin et par substance en français. Alors vous comprenez que l'étymologie est très désastreuse, hein, parce que c'est substare pour le latin, substare, donc ce qui fait se tenir en dessous. Se tenir en dessous, c'est le sujet. Et il faut bien voir que la force de l'étymologie, c'est normal, quand les gens ne pensent pas avec suffisamment d'acuité, la force de l'étymologie joue un rôle très important. Parce que les mots conditionnent. Et quand on est fatigué, les mots déterminent. Non, c'est la différence. Quand on est fatigué, quand la pensée est fatiguée. Alors les mots déterminent, on ne va pas au-delà des mots et on reste au niveau des mots. Alors on comprend comment la scolastique décadente, qui par le fait même est fatiguée, elle a tout le temps amplifié substance, ousia, grec, avec sujet. Et vous verrez dans tous les manuels scolastiques, tous les manuels thomistes, on dit substance égale sujet. Or, nous avons essayé de le voir ce matin, pour Aristote, si on essaie de reprendre, je ne dis pas le premier moment de l'ousia, hein, parce que historiquement, le mot ousia existe déjà chez Platon. Et Platon essaie de comprendre que c'est Ousia en disant que Ousia, c'est la déesse Hestia. C'est très curieux, ça c'est l'étymologie mythologique. C'est la déesse Hestia. Et la déesse Hestia, c'est celle qui demeure. C'est la déesse de la maison. Ousia, c'est donc Hestia, c'est la déesse de la maison, c'est celle qui demeure. Elle demeure à la maison. Oui. Alors, Ousia implique donc, pour Platon, l'être permanent. L'être permanent, celui qui est au-delà de la génésis, au-delà du devenir. Il n'y a pas de devenir dans Ousia, c'est ce qui demeure, c'est ce qui est permanent. Alors, Aristote reçoit cet héritage de Platon. Mais Aristote ne va pas du tout faire allusion à Hestia du point de vue mythique, mythologique, le mythe. C'est joli de voir ça. Et Aristote veut dire que Ousia, c'est Arché. C'est là l'intuition d'Aristote. C'est que Ousia est Arché, c'est-à-dire principe. Elle est principe. L'ousia, c'est quelque chose de premier. C'est quelque chose de fondamental et premier. C'est le fondamental se traduit dans... Parce que c'est ce qu'il dit dans le livre, dans la métaphysique, ce qui donne un peu la métaphysique d'Aristote, au livre de Zeta. Aristote reprend tout de suite. Il dit ça comme quelque chose qui va de soi. Il ne justifie pas que l'ousia est arché, qu'elle est principe. Ça va de soi. Substance, c'est quelque chose de premier. Alors, le principe, vous savez bien ce que ça signifie dans la pensée d'Aristote, ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. Je m'arrête à un principe. Je ne peux pas aller au-delà. Alors, l'ousia, elle est arquée, et alors on essaiera de comprendre qu'est-ce que c'est d'être principe d'être. C'est ça toute la question. Qu'est-ce que c'est d'être principe d'être? Principe de ce qui est. Qu'est-ce que c'est que le principe de ce qui est? que l'ousia est principe dans l'ordre de l'être, principe dans de ce qui est. Vous voyez bien que principe de ce qui est, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas ce qui est. C'est le sujet, c'est donc ce qui implique une indétermination, ce qui implique une indétermination, tandis que l'ousia, elle est principe de ce qui est. Le sujet, c'est nécessairement quelque chose d'indéterminé, quelque chose qui a besoin d'être déterminé. Oui. Alors, l'ousia, on voit très bien comment Aristote ne peut pas s'arrêter au sujet, bien qu'il reconnaisse dans les catégories que la substance première est sujet. Alors, il le prend au niveau logique. En logique, la substance première est sujet. Mais en philosophie première, du côté de l'être, l'ousia, elle est principe. Principe d'être, principe de ce qui est. Bon. C'est simplement pour vous rappeler, vous voyez bien ce passage. Platon, quand on dit que l'ousia, c'est la philosophie d'Aristote, non, disons que c'est Platon. Je crois que Platon est le premier dans la philosophie grecque à parler vraiment d'ousia. Avant Platon, on parle de phusis. Donc on parle de nature. Et Platon est le premier à donner son point de vue de l'ousia. Alors, pourquoi Platon a-t-il fait ça? Ça, c'est des questions très très curieuses. Comment se fait-il qu'on est passé de l'ousia? La phusis, c'est la nature, c'est le principe du devenir. La phusis, la nature, elle est du côté du devenir. Tandis que l'ousia, c'est le point de vue de l'être. Et on pourrait dire, c'est le passage de la philosophie de la nature à l'ontologie. On cherche à connaître ce que c'est que la réalité. Et Ricoeur, quand il faisait son cours en Sorbonne, traduisait ousia pour éviter substance, il a traduisait étant. Vous voyez qu'on ne peut pas dire ça parce que ce n'est pas un mot français. Alors j'aime mieux dire ousia. Plutôt que d'inventer un mot, j'aime mieux employer le mot grec. Et puis dire on dit ousia, pratiquement on l'a traduit substance. Mais faisons attention, dépassons le point de vue étymologique pour essayer de comprendre que lorsque nous disons substance au niveau métaphysique, on veut dire un principe et on veut dire un principe d'être. Et alors c'est pour ça qu'on va préciser qu'est-ce que c'est que ce principe d'être. Alors, je prends l'objection, du moins la question posée. Vous dites que l'ousia est un au-delà de la substance première et de la substance seconde. Je dis la substance au niveau métaphysique. Parce que substance première, dans les catégories, et substance seconde, c'est une distinction qui se prend au niveau des catégories, c'est-à-dire au niveau de la logique. Au niveau des catégories, au niveau de la logique. Au niveau de l'attribution. Disons plutôt ça, plutôt que logique. Au niveau de l'attribution. Au niveau d'attribution, qui dit être attribué dit référence à un sujet. Donc, comment n'est pas attribué? Ce qui est attribué en premier lieu, c'est homme. Qui est attribué à Pierre. En premier lieu, Pierre est le sujet de cette attribution essentielle qui est d'être homme. Alors, vous voyez comment, en logique, ou selon les catégories, c'est-à-dire la philosophie de l'attribution, on voit très bien que substance seconde est relatif à Pierre, et donc relatif à quelque chose qui est antérieur et qu'on appellera substance première, et qu'on dira le sujet. Et homme, c'est la substance seconde, en ce sens que c'est l'attribution essentielle. Quand je dis Pierre est homme, c'est une attribution essentielle. Et c'est pour ça que si facilement, dire substance seconde égale essence. J'aime pas beaucoup cette manière, je ne le dis pas. Mais ça se dira après. Parce que c'est une attribution essentielle. Et l'attribution essentielle, c'est l'attribution caractéristique d'un être. C'est ce qui caractérise un être. J'aime mieux pas dire essence, parce que le mot essence prendra une signification assez particulière. Alors, disons tout simplement substance seconde, puisque Aristote dit substance seconde, c'est-à-dire une attribution essentielle. Toute attribution essentielle présuppose un sujet, et le sujet est plus radical que ce qui lui est attribué, c'est normal. Et donc, si l'attribut est substance seconde, le sujet sera substance première. Il y a identification de homme et de pierre. Pierre est essentiellement un homme. Donc quand j'attribue pierre, homme à pierre, il y a quelque chose qui s'identifie dans pierre. Homme s'identifie à pierre. Et donc on comprend comment on emploiera le même mot en indiquant un ordre, un et deux, pour montrer comment deux se réfère à un, tout simplement. Et alors, il faut comprendre que là nous sommes au niveau des catégories d'attribution, donc d'une certaine manière au niveau du langage. Les modernes diront que les catégories c'est au niveau du langage. Auban qui dira ça, c'est au niveau du langage. J'aime pas beaucoup de dire ça, parce que je crois que c'est plus. C'est plus qu'au niveau du langage, c'est au niveau descriptif. Quand je décris une réalité, j'essaie de voir ces déterminations particulières, essentielles et secondaires. Le point de vue philosophique première, donc métaphysique, va plus loin que le point de vue descriptif, parce qu'on essaie d'analyser profondément la réalité en tant qu'elle est, en tant qu'elle existe, du point de vue de son être. Et on essaie de saisir ce qu'il y a de premier dans cette réalité. C'est la recherche propre d'une connaissance veut aller le plus loin possible. La réalité n'est pas immédiatement saisie, on doit donc l'analyser. Analyser, c'est chercher ce qu'il y a de premier et ce qu'il y a de second. C'est propre de l'analyse. Dans toute analyse, c'est ce que nous faisons. Quand vous découpez un poulet, vous prenez les choses essentielles et les choses secondaires. C'est bien évident. C'est l'analyse. Découper. Alors on découpe plus ou moins bien. Il y a des gens qui découpent en massacrant. Et il y a des gens qui découpent avec beaucoup d'art. Alors on voit très bien que c'est ça le propre de l'analyse. Et on voit tout de suite quelqu'un qui est intelligent quand il analyse bien. Quand il analyse bien, il sait saisir ce qu'il y a de premier et puis ce qu'il y a de second. Et les autres, quand ils n'analysent pas avec suffisamment d'intelligence, massacrent. C'est ce que fait la dialectique. La dialectique, ça coupe comme ça, indépendamment. C'est la manière dont on découpe un poulet aujourd'hui. C'est le résultat de la dialectique. C'est massacré l'animal. Hein. L'animal ne peut rien dire, c'est évident. Mais autrement, celui qui a un petit peu d'âme, c'est massacré. C'est frais. Alors qu'on essaie de saisir les organisations profondes. Saisir l'organisation de l'être. C'est pas le découper comme ça. Ça, c'est la dialectique. Alors, on découpe comme ça. Personne ne dit rien, parce que on n'a pas compris qu'il y avait une autre manière de saisir la réalité. Et de saisir ce qu'il y a de premier, et de saisir ce qu'il y a de second. Saisir ce qu'il y a de premier, c'est donc saisir son ousia, sa source, la source de toutes ces déterminations. C'est ce que je vous disais ce matin en termes de cours. Alors maintenant, je reprends toujours l'objection. Vous dites que l'ousia est au-delà de la substance première et de la substance seconde. Donc l'ousia au niveau métaphysique, au niveau philosophie première, elle est au-delà de la substance première et de la substance seconde. Oui. Or, la substance première, c'est pierre, la réalité concrète qui existe, du niveau de ce qui est, c'est bien évident. Pierre, il existe. Pierre, il est. La substance seconde, c'est l'homme. C'est homme. Disons pas l'homme, c'est homme. C'est parfaitement. La substance seconde, c'est homme. Un être de raison qui n'est que dans l'intelligence. Attention. La substance seconde n'est pas un être de raison. Hein. C'est l'universel qui est un être de raison. Or, la substance seconde, c'est pas l'universel. La substance seconde est saisie selon un mode universel. C'est pas l'universel. Hein. Il faut faire un petit peu attention entre les deux. Donc ne disons pas que la substance seconde, c'est homme, un être universel. Disons que la substance seconde, c'est homme qui est saisi selon un mode universel, qui n'est que dans l'intelligence, qui est dit de et qui n'est pas dans au niveau du Negetar, c'est évident. Le Tipoinon, donc ce qu'il y a de commun entre substance première et substance seconde, entre les deux, n'est-il pas ce par quoi je dis que Pierre est un homme? Est-ce que l'ousia est ce par quoi? Je veux bien. Tout principe, c'est ce par quoi un être est ce qu'il est. Oui. Alors, je veux bien dire ça, c'est tout simplement montrer que le principe comme tel, hein, c'est ousia, la substance. Elle est principe de ce qui est. Elle est nécessairement ce par quoi Pierre est Pierre. Ce par quoi Pierre est homme. Ce par quoi Pierre est telle réalité. C'est bien évident. Si la substance est principe, tout principe est ce par quoi. Puisque c'est le fruit d'une analyse de la réalité concrète. La réalité concrète, elle est ineffable, c'est Pierre. Mais si j'analyse, je cherche quel est son principe premier, son principe propre. Et je dis que son principe propre, c'est l'ousia. Il y a une source de détermination dans Pierre. Et je le vois bien puisque Pierre implique toute une quantité de détermination. Pierre est intelligent, Pierre pèse tant de kilos, Pierre a des tas de relations, Pierre et ainsi de suite. Pierre est capable d'agir, Pierre est dans toutes les déterminations qui sont autour de Pierre. Toutes ces déterminations ont une certaine unité. Et elles font que Pierre, il est cet individu un qui existe. Du fait même qu'il existe, il a son unité. Il faut donc qu'il y ait une source d'unité de toutes ces déterminations. Et la source de toutes ces déterminations, c'est ce qu'on appelle ousia. Vous voyez, je découvre un principe et je l'appelle ousia, comprenez bien, hein, je ne découvre pas ousia. Inscrite au fond du poulet, n'est-ce pas? C'est pas ça. Je découvre un principe, une source, je dis qu'il y a nécessairement une source de toutes ces déterminations, de toutes ces multiples déterminations. Cette source, je l'appelle ousia. Pourquoi? Parce que les deux effets les plus immédiats de cette source, c'est la substance première et la substance seconde. C'est vrai, c'est les deux effets les plus immédiats. Une substance, si elle est principe d'être, elle va permettre de faire que l'être existe. Et une substance, si elle est source de toutes les déterminations, elle va faire que cet être existe avec telle détermination fondamentale. Et donc, les deux effets les plus immédiats de l'ousia, c'est substance première, substance seconde. C'est pour ça que je l'appelle substance. Parce que c'est ce quelque chose de commun qui nous fait comprendre comment substance première et substance seconde, bien qu'elles soient totalement différentes, ont quelque chose de commun. Et elles ont quelque chose de commun, et c'est pour ça que je les appelle ousia. C'est pour ça que je les appelle substance. Vous voyez, comment nous pouvons essayer de comprendre, hein? Parce que c'est un problème très délicat et très important. Pour Aristote, c'était relativement facile. Pourquoi? Parce qu'il avait en face de lui Platon. Platon était une grosse autorité. C'est bien évident. Platon était une grande autorité. Il était une autorité pour Aristote. Donc c'était une autorité. Platon n'a jamais posé la question, la substance n'existe pas. Pour lui, la substance existe puisque les réalités existent et que les réalités fondamentalement ont une détermination. Donc la substance existe. Dans notre monde d'aujourd'hui, pour le philosophe qui veut philosopher aujourd'hui, c'est beaucoup plus délicat. Parce que vous avez en face de vous des philosophies néo-hégéliennes, je prends Hamelin, qui disent la substance n'existe pas. La substance, c'est un mot, un nom, sujet indéterminé. Ça n'a aucun intérêt. Tout s'explique par la relation. La métaphysique, la relation, la relativité universalisée. Alors, tout s'explique par la relation. Et donc, la substance, ça n'a pas besoin d'exister. Il suffit de penser à un tissu de relations. Et c'est pour ça que Merleau-Ponty, par l'influence de Hamelin, définira l'être un tissu de relations. Et je dirais l'être, c'est un tissu de relations. Une toile d'araignée. Mais quand il y a l'araignée, il y a plus que la toile. Vous voyez, alors là, c'est la différence, la substance de la toile d'araignée. Mais supprimer l'araignée, vous n'avez plus que la toile d'araignée. Alors vous n'avez plus que un tissu de relations. Et puis c'est tout. Ah oui, mais est-ce que la relation est première dans l'ordre de l'être? Vous êtes un noyau de relations. Mais la relation peut-elle exister sans l'être? La relation peut-elle exister sans quelque chose d'autre qu'elle? C'est là la question. Pour répondre ça, est-ce que la relation peut exister en dehors? Alors, prenez la réalité habituelle. Vous êtes un être avec beaucoup de relations. Très bien. Mais au fond, ces relations, elles ont un caractère différent. D'où vient le caractère particulier de ces relations? C'est qu'au-delà de la relation, il y a un fondement de la relation. Autre chose est d'être relatif à un ami, autre chose est d'être relatif à un ennemi. C'est pas la même chose. Autre chose est d'être en présence d'un ami, autre chose est d'être présent d'un ennemi. Autre chose est d'être relatif à quelqu'un que j'enseigne ou quelque chose que je suis enseigné. Je ne dis pas que c'est l'ami et l'ennemi, n'est-ce pas? Mais comprenez bien. C'est autre chose. Hein? Donc la relation change. Il y a des caractères différents de relation. La relation n'est pas neutre. Aucune relation n'est neutre. Elle est toujours teintée. Pourquoi? Parce que la relation présuppose un fondement. Ah, si la relation présuppose un fondement, il y a donc quelque chose d'autre que la relation, qui est plus foncier que la relation. Et s'il y a quelque chose de plus foncier que la relation, alors je vais essayer de trouver qu'est-ce qu'il y a de plus radical dans la réalité. Ce n'est pas l'être. Ce n'est pas la relation. La relation, c'est toujours quelque chose de sauvé. La relation, elle est dans l'ordre de la multiplicité. Toute relation présuppose une dualité. Il n'y a pas de relation dans l'unité. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la multiplicité n'est pas première. Il faut donc aller au-delà de la relation. Il faut donc redécouvrir ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'être. Ce que dit Hamelin est peut-être très intéressant dans l'ordre de l'intelligibilité. Confusion de l'être et de l'intelligibilité. Dans l'ordre de l'intelligibilité, je veux bien croire que l'intelligibilité est un tissu de relations. C'est vrai. C'est une toile d'araignée. L'intelligibilité, vous voyez les manières dont vous connaissez, l'intentionnalité. C'est un tissu de relations, l'intentionnalité. Donc, confusion entre ce qui est et l'intentionnalité. Ce qui est propre à l'idéalisme. Alors, si je confonds l'intentionnalité et ce qui est, je comprends très bien que j'arrive à définir l'être, un tissu de relations. Et je ne vais pas au-delà du relatif, parce que l'intentionnalité est essentiellement relation. Alors que l'être n'est pas essentiellement relation. Si je regarde les réalités qui sont en moi, parce que l'intentionnalité commence avec ma connaissance, et avant ma connaissance, j'existe. Je ne m'identifie pas avec ma connaissance. Mais c'est ceci pour faire comprendre que je ne peux pas m'arrêter à ce problème de la relation comme première dans l'ordre de l'être. Je suis obligé d'arriver à quelque chose de plus fondamental et je me repose le problème, qu'est-ce qu'il y a de premier dans l'ordre de ce qui est? Alors, autant que possible, quand je me pose la question, qu'est-ce qui est premier dans l'ordre de ce qui est, regardez-vous. Et posez-vous la question, qu'est-ce qui est de premier en vous? Ça ne fait pas comme une fois, j'avais un étudiant ce soir, pendant que je faisais un cours sur la substance, vous voyez qu'il y avait un bout de papier, regardez, elle dit, qu'est-ce que vous cherchez? Oui, je cherche quelle est la substance de ce bout de papier. Elle dit, cherchez bien, vous n'en trouverez pas. Pourquoi? Parce que ce papier, il n'est pas une réalité naturelle, il est une réalité artificielle. C'est une œuvre d'art. Œuvre d'art, c'est une œuvre d'art. Alors, dans l'œuvre d'art, quelle est la substance? C'est la matière. C'est pas la forme.
c'est la matière. Dans le pain, quelle est la substance du pain? C'est la matière du pain. C'est pas la forme, c'est pas les petits pains. C'est pas ça. Il y a du pain de seigle, il y a du pain de froment, il y a du pain, et ainsi de suite, il y a du pain d'orge. C'est la matière qui est le pain. Dès que je suis en face d'une œuvre artistique, la substance, le fondement, c'est la matière. Puisque c'est dans la matière que j'ai essayé de déduire une forme, de faire passer une forme. Et donc, la substance d'une œuvre d'art, c'est sa matière. Tandis que quand il s'agit d'une réalité naturelle, comme vous, alors je peux me poser la question, qu'est-ce qu'il y a de fondamental en vous? Qu'est-ce qu'il y a de premier en vous? Posez-vous la question, c'est intéressant. Mes cheveux. Non, ce n'est pas vos cheveux qui sont premiers, c'est vos premiers. Vous ne vous définissez pas en fonction de vos cheveux. Non. Mes dents. Mais non, ce n'est pas vos dents. Alors, progressivement, vous arrivez où? Vous allez dire, ah, il y a quelque chose de fondamental en moi. Au-dessus de toutes mes déterminations, puisque c'est justement ce qui est au-dessus et au-delà de toutes mes déterminations qui fait mon unité. Je rencontre des êtres qui ont exactement la même couleur de cheveux que moi, qui ont les mêmes dents que moi, enfin, jamais tout à fait les mêmes, mais qui ont des dents assez semblables, qui ont des yeux semblables, qui ont vraiment un sosie. Il y a un petit quelque chose de différent. C'est que vous existez d'une façon unique. Et l'autre existe aussi d'une façon unique. Vous êtes autre. Vous ne pouvez pas fusionner. Impossible. Vous êtes autre. Qu'est-ce qui fait cette altérité? Qu'est-ce qui fait que j'existe de cette manière qu'il y a quelque chose en moi d'absolument ineffable? Heureusement, du reste. Vous ne pouvez jamais être remplacé. C'est très reposant, ça, au point de vue métaphysique. Tu vois? Se dire ça. On ne pourra jamais être remplacé. Si on était objet d'une série, on pourrait être remplacé. Il y a des conceptions comme ça de l'homme. L'homme est une série. Il sera remplacé par un autre. Génération corrompue, fichue. Et l'autre génération se reviendra après. Ça peut arriver. Il y a des séries de voitures qui sont fichues. On sait très bien. Et tout d'un coup, il y en a une qui émerge, un beau modèle merveilleux, celui-là. Enfin, très bien. Ça, c'est parce qu'un travail en série. Un travail en série, quelle est la substance? C'est la matière. L'homme n'est pas une série. Il y a quelque chose d'autre. Mais c'est vrai déjà chez l'animal, du reste. C'est déjà vrai chez l'animal. L'animal n'est pas en série. Mais l'homme encore plus. Alors qu'est-ce qui fait qu'on est un individu unique? Qu'on est un individu unique. Qui a en nous quelque chose d'irremplaçable, quelque chose d'original et d'unique. D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est que cela? Alors, secouez-vous bien et cherchez toutes les choses que vous voyez, toutes les choses. Bon. Alors vous passez au crible les 10 prédicaments, comme vous disiez ce matin. Vous passez au crible les 10 prédicaments. Substance, qualité, quantité, bon. Tout ça, c'est pas moi. Je vois chez ce voisin, c'est pas moi. Il y a une unité en moi. Alors, qu'est-ce que c'est que cette source d'unité? Alors, je pourrais dire, ah, c'est mon âme spirituelle. Ah, c'est intéressant. C'est mon âme spirituelle. C'est mon âme spirituelle qui fait mon unité. Parce que mon âme informe mon corps, et mon âme donne à mon corps, donc c'est mon âme. Donc, la substance, c'est mon âme. Pourquoi alors peut dire tout de suite, la substance, c'est l'âme? Eh bien, non. Alors là, ça devient très délicat, mais très important. La psyché, l'âme. Je peux dire que mon âme, c'est ma substance. C'est très vrai. Mon âme, c'est ma substance. Parce que c'est mon principe d'unité de vie. Alors, je présuppose ici que la philosophie du vivant a été déjà faite. Hein. Dire que philosophiquement, on sait que l'âme existe. Ça, c'est présupposé acquis. Hein? Nous sommes en philosophie première, donc nous sommes au terme, au sommet. Avant, il y a eu l'expérience du vivant, et l'expérience du vivant a été abordée par le problème de la mort, et donc on comprend qu'il y a un problème qui se pose, un problème fondamental qui se pose, le problème de l'âme. Alors, je pourrais me dire, j'ai découvert qu'il y avait une âme. une âme spirituelle en moi. Cette âme, elle est principe de vie. C'est très vrai. Elle est principe de vie. Une âme. Et c'est un principe d'unité. Alors, est-ce que mon âme, est-ce que ce n'est pas ma substance? Pourquoi, après avoir découvert l'âme, il est nécessaire de découvrir la substance? C'est un problème très délicat, ça, et très important. C'est délicat parce que c'est les rapports entre l'être et la vie. Est-ce qu'en vous, votre être est identique avec votre vie? Faites attention. Hein. Évidemment, vous ne pouvez pas mettre d'un côté votre être et de l'autre côté votre vie. C'est une unité. Est-ce que votre être, c'est une question, hein, répondez à ça. Répondez philosophiquement à ça. Parce que si vous ne vous répondez pas à cette question, vous ne voyez pas, est-ce que en vous, l'être et la vie, c'est la même réalité? Est-ce qu'en vous, il y a une distinction entre être et vie? Si en vous, votre être était votre vie, est-ce que vous pourriez encore expliquer la mort? Si votre être était votre vie, est-ce que vous pourriez expliquer la mort? Qu'est-ce que c'est que la mort? La mort, c'est la fin de ma vie telle que je vis maintenant. C'est à la mort, il se passe quelque chose de mystérieux, très mystérieux, et philosophiquement, ça reste toujours très mystérieux. La réalité qui était là avant, subitement, ce n'est plus la même. Il y avait une présence, et puis il y a comme une absence. Il y a encore une présence, mais une présence matérielle. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? La réalité extérieurement, au moins pendant un certain temps, reste la même. Mais il y a quelque chose qui fait que ce n'est plus un vivant. Dans son unité, ce n'est plus un vivant. Alors, vous voyez, il y a là un problème très très important, c'est d'arriver à discerner en nous-mêmes le principe de notre être et le principe de notre vie. Et ceci, c'est dès qu'on cherche ce que c'est que la substance, tout de suite, on arrive au problème de l'âme. Et on arrive à comparer les deux. Est-ce que mon âme, c'est ma substance? Je peux dire que mon âme, c'est ma substance. Mais je ne peux pas dire que ma substance, vous voyez, que la substance, c'est l'âme. Je dois distinguer le principe de ce qui est et le principe des opérations vitales. Ou du vivere. Pourquoi? Parce qu'il y a une distinction entre le point de vue de l'être et le point de vue de la vie. En dehors de moi, c'est facile à comprendre. Hein? Je sais que dans la lune, la vie n'est pas présente. Je sais que dans le soleil, la vie n'est pas présente. Dans les galaxies, la vie n'est pas présente. Peut-être que la vie existe en dehors de cette petite planète dans laquelle je suis. C'est possible. C'est possible, je n'en sais rien, mais je ne peux pas affirmer d'une façon absolue. Je dis c'est possible. Sans doute pas, mais c'est peut-être possible, je ne peux rien dire. Mais je sais qu'il y a des réalités qui existent et qui ne vivent pas. S'il y a des réalités qui existent et qui n'y vivent pas, il y a donc un niveau propre à l'être et un niveau propre à la vie. Et je dois arriver à discerner cela. En moi, tant que je suis un vivant, tout mon être est assumé par ma vie. Sauf quand j'ai des cheveux qui commencent à mourir. Alors à ce moment-là, ces détaches, ils ne sont pas anéantis. Hein. Ils existent encore, mais ils ne sont plus vivants. Donc vous voyez qu'il y a quand même des choses assez curieuses. Tout ce qui est vivant en vous fait partie de votre être. Tout ce qui est vivant en vous fait partie de votre être. Et tout votre être est vivant, normalement. Et vous discernez en vous une distinction entre l'âme et le corps. Il y a l'âme d'une part et puis le corps d'autre part. Et tant que mon âme informe mon corps et fait une unité d'être.
une unité de vie, c'est vrai, unité d'être, unité de vie. Il y a un principe de vie là, qui n'est pas mon corps, mais qui donne au corps cette unité de vie et cette unité d'être. Et mon âme est unité de vie et unité d'être. Mais cependant, je dois non pas séparer en moi l'âme et la substance, mais je dois comprendre qu'il y a une distinction que mon intelligence peut faire en moi entre mon âme principe de vie et ma substance principe de mon être. Vous allez essayer de comprendre. C'est difficile, hein? C'est difficile parce que c'est les frontières de l'être et de la vie. Et c'est toujours très difficile parce que vous avez des quantités de philosophie qui identifient l'être et vie. Hein? Dès que vous identifiez être et vie, vous n'arrivez plus, vous ne pouvez plus. Alors, identifier l'être et la vie, c'est identifier âme-substance. Alors, il faut comprendre que l'ousia est un principe plus radical d'unité que l'âme. Pourquoi? Vous allez tout de suite comprendre. C'est que le corps fait partie de votre être, mais ne fait pas partie de votre âme. Si le corps fait partie de votre être, il faut bien que la substance, principe d'être, soit principe de ce qu'il y a de vital en moi, et aussi de ce qu'il y a de corporel en moi. Donc l'ousia est source, de ce qu'il y a de vie en moi, de ce qu'il y a de vital, et aussi de ce qu'il y a de corporel, ce qui est le principe d'être. Il faut donc qu'elle soit principe de ce qu'il y a de principe d'être, hein? Principe d'être, des deux. Et donc, il faut que l'ousia soit capable d'assumer le corps. De l'assumer d'une manière telle que le corps n'est pas étranger à l'ousia. Et c'est là où vous touchez un problème extrêmement important, la question de ce que représente ma propre substance individuelle. Vous voyez, alors là, nous passons à un problème distinct, mais vous allez comprendre, et c'est très important. Si vous ne voyez pas ça, vous resterez toujours dans un certain dualisme. Un dualisme en disant, ah oui, j'ai l'âme et le corps. Mais oui, mais l'âme et le corps, ça forme un seul être en vous. Il n'y a pas deux êtres différents. Il y a un seul être. S'il y a un seul être, il y a donc un principe radical des deux. Principe radical d'être de l'âme, principe radical d'être du corps. Et alors, ça ne veut pas dire hein, qu'il y a une ousia distincte de l'âme, hein, faisons attention. C'est là la difficulté. Mon ousia, c'est mon âme. C'est sûr, c'est mon âme. Je n'ai pas un autre principe. Mais je peux discerner par l'intelligence ce qui est principe de vie et ce qui est principe d'être. Je peux le discerner. Mon intelligence peut faire la distinction entre les deux. Et quand mon intelligence fait la distinction entre les deux, je vois donc que l'ousia, que la substance, est un principe d'être plus radical que la principe de vie. Alors, on va essayer de saisir hein, d'une autre manière, parce que ça c'est important. On va essayer de saisir d'une autre manière. Dès que j'ai découvert la substance comme principe radical de ce qui est, principe selon la forme de ce qui est, je peux me poser la question, et même je dois me poser la question, comment, de fait, se trouve réalisée en moi cette substance? Et c'est la question du comment. Vous voyez la différence, hein? J'ai été posé la question, qu'est-ce que l'être? Qu'est-ce que l'être? Et j'ai découvert l'ousia. J'ai découvert un principe. Un principe radical de ce qui est. Maintenant, ayant découvert ce principe, je peux... Comment, de fait, se trouve réalisé ce principe? Mais c'est une autre question. Il faut toujours comprendre qu'il n'y a pas d'opposition entre le pourquoi et le comment. Il y a une distinction. La première question du pourquoi, c'est qu'est-ce? Et une fois que j'ai découvert qu'est-ce, qu'est-ce que c'est? Le ti esti grec. Hein? Le ti esti grec. Titi. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Interrogation. On pousse. On veut savoir. Alors on interroge. Le comment le pose. Comment se trouve réalisé ce principe d'être en moi? Bien, je dis ce principe d'être en moi se trouve réalisé d'une manière complexe. Pas d'une manière simple. En tant que principe, il est simple. Mais dans sa manière d'exister, il n'est pas simple. C'est pas contradictoire, c'est la réalité. En tant que principe, il est simple. Tout principe est indivisible. Alors, en tant que principe, il est simple, mais comment se trouve-t-il réalisé? La manière dont ce principe se trouve réalisé, la manière dont nous y a, la substance se trouve réalisée, je dis qu'elle se trouve réalisée d'une manière complexe. Pourquoi? Elle se trouve réalisée dans un monde physique. Mon ousia, hein, mon ousia, la mienne, se trouve individualisée. Elle se trouve donc réalisée d'une manière complexe. Mon ousia ne peut pas se séparer de mon corps. Mon corps fait partie substantiellement de mon être. Tandis que mon corps n'est pas mon âme. Et mon corps fait partie substantiellement de mon être. Il faut donc comprendre que mon ousia se trouve réalisé, individualisé, de cette manière tout à fait particulière qu'elle implique le corps. Et c'est vrai, je ne peux pas dire que mon corps ne peut pas partie de ma substance. Mon corps ne peut pas partie de mon âme. Et l'être a une ampleur plus grande que le problème de la vie. Puisque de fait, ce qui est source de mon être va en quelque sorte unir ce qui, au niveau de la vie, se distinguait et s'opposait. Au niveau de la vie, l'âme et le corps s'opposent et se distinguent. Au niveau de l'être, l'âme et le corps sont unis dans le vivant. Ça, c'est très très extraordinaire. C'est beau, du reste, à saisir. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce que ça fait comprendre ce que représente le point de vue de l'être. Et ce qu'on représente, la substance individualisée, et ce fameux problème qui a fait couler énormément d'encre au niveau des théologiens, parce que comment la substance peut-elle s'individualiser? Alors vous savez bien, il y a des passages très intéressants dans Saint Thomas, on n'a pas le temps de les voir, ce serait très intéressant, puis pardon Scott, ce qu'on a opposé les deux écoles, l'école thomiste et l'école scottiste, à propos du problème de l'individuation. C'était des querelles de théologiens, mais des querelles intéressantes du reste. Savoir comment expliquer l'individu. C'était des théologiens. Laissons les théologiens se disputer. Vous savez, c'est un peu laisser les théologiens se disputer. Et reprenons le problème d'un point de vue philosophique. Si je reprends le problème d'un point de vue philosophique, je reprends le problème par l'ousia. Et j'essaie de comprendre comment l'ousia se trouve réalisé dans notre monde physique. Dans notre monde physique, l'ousia se trouve réalisée en impliquant le corps. La substance, elle ne trouve pas réalisée séparée du corps, selon les rêves. Mais en dehors des rêves, non, non. La substance, elle est dans mon corps. Et elle fait que mon corps fait partie substantiellement de mon être. Et donc, la substance implique le corps. Et par le corps, elle est individualisée. Elle est donc distincte des autres. C'est vrai, je suis distinct des autres par mon corps. C'est une question de place, vous voyez. Si avec des âmes séparées,
Il fascine, hein. Il n'y aurait pas de place particulière, tandis que pour l'instant, il faut un siège, il faut s'asseoir. Hein. Alors ça, c'est... Et si on prend la place, on prend la place de quelqu'un, c'est forcé, ça ne peut pas être autrement. Notre corps nous individualise et nous met juxtaposés les uns aux autres. L'individuation, c'est ça. C'est une substance individu, c'est chaque individu. C'est chacun qui est à côté de son voisin. C'est pas le principe ne tient pas de place. Le principe, il est d'indivisible. On le saisit, ou on ne le saisit pas, hein, mais on le saisit directement dans la réalité. Et il est indivisible, le principe. Nous y a comme tel, c'est un principe. Alors, comment se trouve réalisé ce principe? Se trouve réalisé d'une manière très particulière, d'une manière complexe, en assumant le corps, en faisant que par là, chacun est individualisé et séparé des autres, distinct des autres, et qu'il est donc celui qui va faire que cette substance va se réaliser dans la matière et dans la quantité. Et c'est par la matière et par la quantité qu'il se juxtapose des autres.